Victor Hugo, Le poème du jardin des plantes, 1. Le comte de Buffon fut bonhomme. Il créa ce jardin imité des Vendres et de Réa, et plein d'ours, plus savants que ceux de la Sorbonne, afin que Jeanne y puisse aller avec sa bonne. Buffon avait prévu Jeanne, et je lui sais gré de s'être dit qu'un jour Paris, un petit gré, complétant ses bourgeois par une variante, la bête, enchanterait cette âme souriante. Les enfants ont des yeux si profonds que parfois ils cherchent vaguement la vision des bois. Et Buffon, paternel, c'est ainsi qu'il rachète sa phrase sur laquelle a traîné sa manchette. Pour les marmots, de qui les anges sont jaloux, a fait ce paradis suave, orné de loups. J'approuve ce Buffon. Les enfants, pur visage, regardent l'invisible et songent, et les sages tâchent toujours de plaire à quelqu'un de rêveur. L'été dans ce jardin montre de la ferveur. C'est un Éden où juin rayonne, où les fleurs luisent, où l'ours bougonne, et Jeanne et Georges m'y conduisent. C'est du vaste univers un raccourci complet. Je vais dans ce jardin parce que cela plaît à Jeanne et que je suis contre elle sans défense. J'y vais étudier deux gouffres, Dieu, l'enfance, le tremblant nouveau-né, le créateur flagrant, l'infiniment charmant et l'infiniment grand. La même chose au fond, car c'est la même flamme qui sort de l'astre immense et de la petite âme. Je contemple, au milieu des arbres de Buffon, le bison trop bourru, le babouin trop bouffon, des bosses, des laideurs, des formes peu choisies, et j'apprends à passer à Dieu ses fantaisies. Dieu n'en déplaise aux prêtres, aux bonzes, aux caloyers, et capable de tout, lui qui fait balayer le bon goût, ce ruisseau, par Nisard, ce concierge, livre au singe excessif la forêt, cette vierge, et permet à Dupin de ressembler au chien, pauvre chien. Selon l'Inde et les manichéens, Dieu doublé du démon expliquerait l'énigme, le paradis ayant l'enfer pour borborygme. La providence un peu servante d'Ananké, l'infini mal rempli par l'univers manqué, le mal faisant toujours au bien quelque rature, telle serait la loi de l'aveugle nature. De là les contresens de la création. Dieu, certes, a des écarts d'imagination. Il ne sait pas garder la mesure. Il abuse de son esprit jusqu'à faire loi et l'abuse. Il ignore, auteur fauve et sans frein ni cordeau, ce point juste où l'art paraît collardeau. Il se croit tout permis, malheur à qui limite. Il n'a pas de frontières. Il n'a pas de limite et fait pousser l'ivraie au beau milieu du blé, sous prétexte qu'il est l'immense et l'étoilé. Il a d'affreux vautours qui nous tombent des nues. Il nous impose un tas d'inventions cornues. Le bouc, l'auroch, l'isard et le colimaçon. Il blesse le bon sens, il choque la raison, il nous raille. Il nous fait avaler la couleuvre. Au moment où, content, examinons son œuvre, rendant pleine justice à tant de qualités. Nous admirons l'œil d'or des tigres tachetés, le cygne, l'antilope à la prunelle bleue, la constellation qu'un paon a dans sa queue. D'une cage insensée, il tire le verrou, et voilà qu'il nous jette au nez le kangourou. Dieu défait et refait, ride et borgne et sourit, exagère le nègre, hélas, jusqu'au gorille, fait des taupes et fait des lynx, se contredit, mêle dans les halliers l'histrion au bandit, le mandri au jaguar, le perroquet à l'aigle, lit à la parodie insolente et sans règle l'épopée, et les laisse errer toutes les deux sous l'âpre clair-obscur des branchages hideux. Si bien qu'on ne sait plus s'il faut trembler ou rire, et qu'on croit voir rôder dans l'ombre que déchire tantôt le rayon d'or, tantôt l'éclair d'acier, un spectre qui parfois avorte en grimacier. Moi, je n'exige pas que Dieu toujours s'observe. Il faut bien tolérer quelques excès de verve chez un si grand poète, et ne point se fâcher si celui qui nuance une fleur de péché et courbe l'arc-en-ciel sur l'océan qu'il dompte, après un colibri, nous donne un mastodonte. C'est son humeur à lui d'être de mauvais goût, d'ajouter l'hydre au gouffre et le ver à l'égout, d'avoir en toute chose une stature étrange et d'être un Rabelais d'où sort un Michel-Ange. C'est Dieu, moi, je l'accepte. Et quant aux nouveau-nés, de même. Les enfants ne nous sont pas donnés pour avoir en naissant les façons du grand monde. Les petits en maillot, chez qui la sève abonde, poussent l'impolitesse assez loin quelquefois. J'en conviens. Et parmi les cris, les pas, les voix, les ours et leurs cornacs, les marmots et leurs mères, dans ces réalités semblables aux chimères, ébahis par le monstre et le mioche, assourdis comme par la rumeur d'une ruche à midi, sentant qu'à force d'être aïeul, on est apôtre, questionné par l'un, escaladé par l'autre, pardonnant au bambin le bruit, la fiente au nid, et le rugissement aux bêtes, je finis par ne plus être au fond du grand jardin sonore qu'un bonhomme attendri par l'enfance et l'aurore. Aimant ce double feu, si plaisant, si chauffant, et pas moins indulgent pour Dieu que pour l'enfant.